Chapitre 7. Les Françaos de la Camorrée. Les Raskatas, bannis sur la planète Point Rouge, dont l'affluence massive entraîna la création des quartiers interdits, s'organisèrent en bande pour se défendre contre les Prouges autochtones de Matana, la cité aux 117 portes monumentales. Les chefs de ces bandes furent appelés Françaos, du nom de Françao Spilagi, premier des Raskatas à avoir organisé la résistance contre les Prouges. Après des siècles de luttes intestines et meurtrières, les Françaos firent la paix et décidèrent de répartir leurs activités de façon rationnelle. Ils créèrent alors la Camorrée. La Camorrée des Françaos devint donc un véritable gouvernement clandestin, établissant sa propre loi, sa propre justice et possédant ses propres mœurs. La charge honorifique de Françaos s'obtenait soit par succession nominative directe, soit par une bataille entre les prétendants nommés « guerre de succession ». La Camorrée fit de Point Rouge la plaque tournante de tous les trafics, esclaves, organes, poudre à joie, armes, déromates clandestins, tripots, prostitution, etc. Sif Kerwick, originaire de Selpdik, fut l'un des plus célèbres Françaos de la Camorrée. La légende dit de lui qu'il ne dormait jamais, tant était grande sa méfiance. La légende veut également que son successeur, Bilo Metarelli, mourut en aidant Sri Lumpa, seigneur lézard en langue Sadumba, à tirer Naya Fikit des griffes des marchands d'esclaves. L'hégémonie des Françaos cessa en même temps que la confédération de Naflin. Renforcée par les Skaïtes de la Sainte Inquisition et les assassins de Prithive, l'église de Creutz réussit à les capturer l'un après l'autre et à les brûler sur les croix de feu. L'histoire du Grand Hang Empire, encyclopédie unimentale. Le mot Camorrée semble trouver ses origines dans la légendaire civilisation de Terra Mater. La Camorrée ou Comora, ou encore Mafia, aurait constitué un gouvernement parallèle, secret, infiltré dans tous les pouvoirs officiels de Terra Mater, environ 5000 années standard avant Naflin. Essentiellement composé de Rital, natif de Ritali, cette organisation puissante et ramifiée aurait vécu de divers trafics, et surtout de trafic d'influence. Difficile de démêler la réalité de la fiction dans cette saga du crime, dont le héros aurait été un certain Al Capone. Tixu Oti ouvrit lentement les yeux. La fraîcheur de la terre où il était allongé, entièrement nu, le fit frissonner. Une douleur aiguë lui lacérait le crâne. L'effet corrigé glosson, le mal habituel des transferts par déromates. La première chose qu'il vit dans la perspective fuyante des immeubles en ruine, ce fut le ciel inondé de lumière verte. À l'horizon, l'énorme disque de feu vert se noyait dans un somptueux lavis de couleurs allant du jade au vert pâle. Les lueurs mourantes des rosaces émeraudes qui parsemaient la voûte céleste assombrie léchaient de leur langue vacillante les murs des bâtiments éventrés. Dans l'esprit confus de Tixu, se déroula comme un rêve la succession d'événements qui l'avaient amené dans cette courette de terre prise d'assaut par les herbes folles, jaunes et rêches. Un délire d'images tourbillonnantes d'où surnageaient les visages de la Syracusaine, de Cacho Marum, Lima Sadumba de la forêt profonde. La laine frémissante de la brise ne parvenait pas à balayer les miasmes de puanteur, aussi lourds que du plomb. Le contraste entre la froidure mordante qui montait des entrailles de la terre calcinée et la moiteur de l'atmosphère entraînait des sensations contradictoires sur sa peau, à la fois hérissée et humide de transpiration. Il s'installa péniblement en position assise, replia ses jambes sous lui, et tenta de faire le point de la situation. Cet effort lui donna envie de vomir. Le décalage planétaire, cette désagréable impression de ne pas être entièrement installé dans son corps, rendait son cerveau patraque, incohérent. Il estima qu'une bonne heure lui serait nécessaire pour recouvrer toutes ses facultés mentales et physiques. Un rire, un croassement plus exactement, retentit dans son dos. Il se retourna précautionneusement. À quelques pas de lui, adossée à une grosse pierre, était assise une femme ébouriffée et sans âge. Visage ravagé, mine de papier mâché, petits yeux renfoncés et mi-clos soulignés par des cernes violacées. Aux commissures de ses lèvres rainurées, l'extrémité rongée d'un tuyau de pipe. Elle tirait goulûment sur le fourreau rougeoyant et ses narines rejetaient de longues volutes de fumée. Il l'enveloppait d'une brume verdie par les lueurs du troisième crépuscule. Elle était vêtue d'un assemblage de tissus en lambeaux, vaguement apparentés à une robe, qui laissait entrevoir une chair flétrie, crasseuse.
« Regarde-moi ce bel homme qui me tombe du ciel !»
Ses rares chicots branlants et ses gencives étaient toujours serrées sur le tuyau de pipe. Elle parlait du coin de la bouche et crachait en même temps de puissants jets de salive brunâtre.
« Là qu'il est tout nul, mignon. Même pas besoin de le déshabiller. Viens par là, mon beau. Viens voir la belle Isabouza de plus près. T'auras pas à le regretter. Isabouza, elle a grand besoin de gros câlins. Il y a bien longtemps qu'elle a pas eu un bel homme, elle, toute seule. »
Elle libéra un rire hystérique, un long borborygme raclé du fond de la gorge. Des rides verticales se creusèrent tout autour de sa bouche.
« Eh ben, c'était que je t'appelais pas ou c'était que t'es timide? Tu veux me dire? C'est pas gentil, ça. Si qu'elle te plaît pas, Isabouza le dira au grand H8. Il t'obligera à faire un vent de causette avec Isa. Peut-être que tu t'obligeras aussi à les grimper dessus. Tu connais pas de quoi il est capable, le grand H8. »
À peine avait-elle prononcé ce nom qu'une autre voix ensommeillée, grave, s'éleva d'un monticule de pierre et de gravats.
Qu'est-ce que t'as à marmonner comme ça, Isa? Tu nous empêches de pioncer, ou alors? C'est qu'il y a un godapi qui te veut du mal, des fois.
Regard vitreux de folle vissé sur Tixou, la femme ne répondit pas. Elle se contenta de tirer d'impressionnantes bouffées de sa pipe, dont le fourreau étincelait aussi vivement qu'une forge des légendaires cyclopes des planètes montagneuses de Delphes. Tixou prit conscience que ces immeubles abandonnés pouvaient se transformer en piège mortel. La femme était une mordue de poudre à joie, une drogue euphorisante, et présentait tous les symptômes du manque. De plus, l'homme qui lui avait répondu n'était probablement pas seul. Les replis sombres de la nuit naissante, estompant les reliefs, paraissaient abriter une foule d'invisibles dangers. Mais les centres moteurs de l'Orangien, engourdis, refusèrent de répondre à ses sollicitations. Ses maladroites tentatives de se relever se soldèrent par autant d'échecs. Un accès de panique accompagné de relents nauséeux le traversa.
« Eh ben, Isa, je te crouse à ce qui me semble, »
reprit la voix masculine agacée.
« Peut-être que ça t'emmerde de me répondre, mais moi, je veux une réponse quand je cause. Hé, c'est le grand H8 qui parle. Bon, c'est que tu préfères que je te flanque une bonne raclée. « Je vais te mettre les fesses à vif, ma belle. Ça t'apprendra à me réveiller sans raison. »
Une tête hirsute encore bouffie de sommeil apparut au-dessus de la crête découpée du tas de gravats. Au milieu de cette trogne bestiale encadrée d'une lourde tignasse emmêlée et d'une barbe fournie, ne brillait qu'un seul œil noir et inquisiteur. L'autre était recouvert d'un monocle de cristal fumé, cousu à même la peau en haut de la pommette et sous l'arcade proéminente. Le grand H8 tendit le bras et pointa un index épais sur Tixou cloué au sol.
« Qui c'est celui-là? D'où qui sort ?»
La femme recroquevillée, immobile, imperturbable, recracha sa fumée comme une cheminée d'usine d'énergie tellurique mais ne répondit pas. D'autres têtes difformes, cabossées, d'hommes et de femmes se hissèrent silencieusement au-dessus des lucarnes, des éboulements, des murets cernant la cour. L'Orangien se vit brusquement environné d'une ronde grimaçante, d'une cohorte de démons tout droit sortis de l'enfer. Un étau de glace lui comprima les poumons. Sang figé, ventre noué, il fit appel à toute sa volonté pour tenter de se relever. Mais ses bras et ses jambes étaient comme des enveloppes vides, inutiles, incapable de s'arracher à la gravité de Point Rouge. Quelques femmes aux chevelures de sorcières gloussèrent, sifflèrent, se donnèrent des coups de coude et se lancèrent des œillades appuyées.
« Hé, Godapi, je vais te faire monter le manche, puis j'y grimperai dessus. Non, moi, regarde-moi, mignon, regarde comme je suis belle. Vous vous êtes vues toutes les deux, vous flanqueriez la trouille à un gorille à cul rouge. »
« Vos gueules, les pitronnelles !» tonna le grand Achuit. « Je suis là, y a pas intérêt à le laisser filer. On dirait qu'il a un petit problème de décalage planétaire, mais il a l'air en pleine forme. Il voudra un bon paquet de fric au cher marché. La fille ce matin aurait rapporté plus, mais avec « je suis là », on devra se refaire un peu. »
Les hommes, fagotés dans des guenilles poissardes, escaladèrent les murets, les monticules de gravats, dégringolèrent des fenêtres et convergèrent vers Tixou. Le cercle se resserra rapidement autour de lui. Aiguillonné par la peur, il parvint au prix d'un terrible effort à se lever et à esquisser quelques pas maladroits sur ses jambes cotonneuses. Une pensée furtive traversa son esprit. Cette fille dont avait parlé le borgne et qui leur avait échappé ne pouvait être que la Syracusaine, sa passagère du matin. Elle avait été rematérialisée aux mêmes coordonnées que lui, et s'était débrouillée pour leur filer entre les doigts. Les pierres roulèrent sous les bottes du grand Achuit qui dévala la pente du tas de gravats comme un taurillon corné sauvage.
« Qu'est-ce que vous attendez, tas de mouteurs castrés ?» glapit le borgne. « Sautez-y dessus !»
Un homme plongea dans les jambes de Tixou, lui agrippa les mollets et le déséquilibra. L'orangien retomba lourdement sur la nuque. Le choc lui coupa la respiration. Les autres s'abattirent sur lui comme une nuée de sauterelles, lui immobilisèrent bras et jambes et le plaquèrent au sol. La puanteur qui s'exhalait de leurs oripeaux lui souleva le cœur.
« Bien joué, les gars. Celui-là, on le tient et on le lâche plus !» jubila le grand Achuit. « On dirait que vous faites des progrès, mes petits mouteurs. Attachez-le. Tout à l'heure, on ira le vendre à un franchao de la Camorée. »
Ils lièrent ensemble les poignets et les chevilles de Tixou, puis le retournèrent sans ménagement sur le ventre. Une touffe d'herbe rêche lui comprimait le visage et rendait sa respiration difficile. Il ne pouvait pas modifier son inconfortable et douloureuse position, car la corde humide et coupante maintenait ses bras en arrière, pliait ses jambes, relevait ses cuisses, creusait ses épaules et ses reins, et sa pression augmentait à chacun de ses mouvements. Les muscles contractés, torturés de son dos et de ses fessiers furent bientôt envahis de crampes. Le croassement d'Isabouza troua de nouveau le clair-obscur qui baignait la courette.
« Eh, Godapi, si t'avais filé un rancard à ta belle dans cet endroit, t'es arrivé un peu tard. Il y avait tellement le feu au feu ce matin qu'il risquait sûrement pas de t'attendre. Tu l'aurais vu filer, tu te serais peut-être demandé si elle voulait encore de toi. »«
Oh, Isa, tu l'ouvres un peu trop ta grande gueule. Tu ferais bien de la fermer, » gronda la chute. « Tu nous fatigues. »
Isabuza se le tint pour dit, se rencogna contre la grosse pierre et se contenta de téter en silence le tuyau de sa pipe. Les autres femmes, attifées de locks ornés de pitoyables fanfreluches, s'approchèrent de Tixou. Des braises de convoitise luisaient dans leurs yeux enfoncés, cernés. Leurs mains rugueuses, calleuses ou noires de crasse et de terre, se posèrent sur ses épaules et son dos. Elles le caressèrent avec rudesse en émettant des petits rires de gorge. Des frissons glacés parcoururent la peau de l'orangien qui, complètement désarticulé par la corde, endurait un véritable calvaire. Isabuza lança un regard noir aux autres femmes.
Hé, grand Achuit, y a pas de raison que ce salope profite du Godapi si j'en profite pas aussi. C'est-tu pas moi qui l'ai trouvé, ce mignon?
Sans attendre de réponse, elle posa sa pipe sur une pierre plate, se releva, et, cheveux en bataille, toute griffe dehors, fondit comme une harpie sur ses compagnes agglutinées autour du prisonnier. Les autres ripostèrent, les doigts crochus, happèrent les cheveux, les ongles meurtriers, déchirèrent les hardes, arrachèrent des lambeaux de peau, les pieds et les poings frappèrent où ça faisait mal sur les poitrines et sur les bas-ventres, des rigoles de sang ruisselèrent sur les fronts, les tempes, les nez, les coups, dégoulinèrent sur les joues, les mentons, les gorges.
« Arrêtez les pitronnelles ou je m'en mêle !»
La voix forte du grand Achuit domina le tumulte. Les femmes suspendirent leurs gestes et se tournèrent à l'unisson vers le géant borgne.
« Puisque c'est comme ça, personne y touchera. Vous seriez capable de me l'abîmer. Et puis, Si vous avez tant que ça envie d'un homme, c'est pas ce qui manque ici, pas vrai, vous autres ?»
Des voix masculines appuyèrent vigoureusement les paroles du grand Ashuit. Ses acolytes étaient d'accord avec lui en toutes circonstances, d'autant plus qu'il la dépassait d'une bonne tête et que la largeur de ses épaules et la grosseur de ses poings constituaient leur seule référence en matière de hiérarchie. Celui qui manifestait une opinion contraire à la sienne avait toutes les chances de perdre ses dernières dents, un doigt de pied ou deux mains. Parfois même, si l'insubordination était jugée particulièrement grave, le pied, la main ou le bras tout entier.
« Ouais, ouais, mais celui-là, il a l'air d'avoir une peau si douce !»
soupira une femme au visage zébré d'éraflures.
« Pas comme vos sales peaux de crocodile !»
marmonna une autre aux lèvres tuméfiées. Elles s'éloignèrent à regret de Tixou. Mais il valait encore mieux se priver d'un petit moment de bon temps plutôt que d'affronter les terribles battoirs du grand Ashuit. Ils attendirent que la nuit ait entièrement inondé le ciel, mer d'encre criblée de lumière scintillante, pour se mettre en route. Ils avalèrent un repas sommaire composé de sachets de nourriture séchée volés aux étalages des comptoirs marchands. Ils libérèrent les chevilles et les bras de Tixou, à qui il fallut une bonne demi-heure pour rétablir un semblant de circulation sanguine dans ses muscles tétanisés. Ils lui passèrent un collier magnétique autour du cou, une laisse archaïque probablement récupérée dans une décharge et donc, car Négil, manchot et denté, lieutenant présumé du grand Ashuit, se vit confier la responsabilité du boîtier de commande. La moitié de la bande était de la balade.
« Avec le fric que Skodapi va nous rapporter, on s'achètera pour 3 bons mois de poudre à joie, puis on se paiera un sacré fichu de bon temps, c'est moi qui vous le dis !»
déclama le grand Ashuit. Des vivas ponctuèrent cette déclaration riche en promesses de sacré fichu de bon temps. Puis ils s'engagèrent dans un sentier qui serpentait entre les mamelons herbus du terrain vague séparant les immeubles en ruine des premiers quartiers de Pointe-Rouge-Ville. Ils s'enfoncèrent dans le cœur des ténèbres que la clarté blafarde de l'astre de nuit psaumée, l'œil des rêves, ne parvenait pas à égratigner. Elle se contentait d'ourler d'une frange ténue les échines arrondies des lointaines dunes au bord du désert. Une fraîcheur piquante chassait peu à peu la tiédeur du crépuscule. Ils cheminaient en silence, attentifs au bruit de la nuit, comme s'ils craignaient qu'une bande rivale ne leur tombe dessus et ne vienne dérober leur trésor. Tout en veillant à se maintenir dans l'allure et à ne pas marcher sur les épines et les chardons traîtreusement disséminés sous ses pieds nus, Tixou grelottait de froid. Il souffrait de la faim également, car il n'avait pas daigné partager leur repas avec lui. Dès qu'il ralentissait ou qu'il s'écartait involontairement du groupe, Carnégil ricanait, tripotait le boîtier de commande et resserrait le collier magnétique d'un cran. Les mâchoires d'acier se plantaient de plus en plus férocement dans le cou du captif. Malgré l'inconfort de sa situation, Tixou avait surmonté son décalage planétaire et recouvré l'essentiel de ses facultés mentales et physiques. Il enrageait de s'être laissé capturer comme le dernier des idiots par ces pouilleux en manque de poudre à joie. Il guettait un moment propice pour leur fausser compagnie, pour se mettre hors de portée des ondes magnétiques du boîtier de commande. Mais la vigilance de Carnégil ne se relâcha pas. Le manchot le surveillait comme un chat sauvage couvant des yeux une musaraigne égarée dans ses griffes. Une imposante colline se dressa devant eux. À son pied, le sentier se jetait dans un inextricable fouillis de rabougris gris épineux.
On fait le tour ? Suggéra Carnégil.
Pas question, répondit le grand Ashuit. On n'a plus le temps, on traverse.
Ils pénétrèrent donc dans le fourré et gravirent la pente escarpée. Les branches épineuses fouettèrent la peau de Tixou. Des chapelets de brûlures vives grimpèrent à l'assaut de ses bras, de ses épaules, de son torse, de ses jambes.
« Peut-être ben qu'on aurait dû l'habiller, » grogna Carnégil. « Ça lui fait perdre la valeur de le présenter avec des griffures partout. Une bonne marchande d'homme, faut que ça soit y présenté et lisse, ça. Je l'ai toujours dit et j'en démords pas. »«
Ta gueule !»
lui fut-il aimablement répondu. Au sommet de la colline, on apercevait les premières lumières de Pointe-Rouge-Ville. Ils dévalèrent le versant descendant et récupérèrent le sentier qui s'élargissait jusqu'à devenir une allée parfaitement dégagée, à proximité des premières constructions, les demeures des Raskatas classées à l'index, en provenance de tous les mondes du centre. Jusqu'au mur d'enceinte et aux 117 portes monumentales de la vieille cité rouge, les styles architecturaux se côtoyaient dans une joyeuse anarchie. Toits ronds, pointus, carrés, plats, maisons à colonnades, bâtisses cubiques, trapézoïdales, immeubles de verre conique, murs blancs, jaunes, bleus, chalets de bois précieux, bulles à demi enterrées, bunkers de béton brut. Chaque exilé tenait à marquer son nouveau territoire de ses empreintes, de sa culture. Les Prouges autochtones n'avaient qu'une seule expression pour désigner ce bric-à-brac foisonnant, ce capharnaüm clinquant qui cernait l'uniformité ocre et blanche de Matana. Les quartiers interdits. Quelques engins volants, taxi-boules ou personnaires, fusaient silencieusement au-dessus de la petite troupe et se fondaient dans l'obscurité fuligineuse ensevelissant les environs de la cité. Ils s'enfoncèrent dans les rues animées, bruyantes, parsemées d'enseignes clignotantes, de lampadaires nucléaires et de bulles lumière blanches. À la grande déception de Tixou, nue et ensanglantée dans ses ruelles maculées de lumière, ce qui pouvait passer pour un signe de civilisation, personne ne lui prêta la moindre attention, contrairement à ce qu'il avait secrètement espéré. Pas même les interliciers vêtus d'uniforme bleu marine qui déambulaient par groupes de quatre au beau milieu d'une faune pittoresque, d'une véritable sarabande de trognes à potence. Les seuls regards qui se posèrent furtivement sur lui furent ceux de quelques gueux qui saluèrent au passage le grand H8 et sa bande.
« Surveille-le bien, Carnégil, » marmonna le géant borgne. « C'est pas le moment de laisser filer. Il représente 3 mois de poudre, fais-y gaffe. Je vois qu'on fait des envieux. »
Au fur et à mesure qu'il progressait vers le cœur des quartiers interdits, il leur était de plus en plus difficile de fendre la multitude, suspendue par grappes mouvantes et compactes aux postiches des camelots ambulants, aux harangues grivoises des rabatteurs des bordels, ou aux goualantes des joueurs professionnels qui avaient dressé leurs tables truquées sur les trottoirs. La bouille cabossée de Carnégil, pauvre girouette battue par les vents de la tentation, pivotait en tous sens. Des yeux exorbités, hallucinés, lorgnaient les prostituées adossées aux colonnes des façades. L'ayant repéré, elle la guichait en exhibant un sein, une jambe gainée de soie, lui lançait à la volée des invitations sarcastiques entrecoupées de rires entendus. Le lieutenant présumé du grand H8, malade de désir à la vue de ces créatures outrageusement fardées, vêtues de tuniques échancrées et transparentes, inondées de parfums aphrodisiaques, se laissait peu à peu décrocher par les autres. Les prostituées apostrophaient également le borgne et Tixou, tenu en laisse comme un mouteur mené à l'abattoir.
« Hé, grand H8, c'est la fortune aujourd'hui. Où c'est que tu l'as trouvé, celui-là ? Les mignons, ton esclave ! T'es dégueulasse, t'aurais pu le nettoyer. Allez, viens, mon beau, moi je vais te laver, puis après, si tu veux, je te fais ton affaire gratis. »
« Rêve pas, c'est pas avec ce que ces rats de Godapi nous rapportent que les Françaos nous laisseront prendre un peu de bon temps. » « Carnégil avance, sacré bon Dieu !» grommelait H8. T'iras les voir quand t'auras le fric. T'entends, bougre de mouteur castré, avance ou je t'arrache l'autre bras. »
Tixou avait l'impression de s'engluer dans un cauchemar sans issue. Il se demandait ce qu'il fabriquait, nu, étranglé, écorché, sur ce monde violent, sauvage, où la survie était conditionnée par l'aptitude à cogner vite et fort. Les faisceaux de rue des hauts lampadaires nucléaires et des bulles lumière soulignaient les silhouettes menaçantes, les faciès brutaux, les arcades saillantes, les regards enfiévrés, les bouches tordues, les sutures boursouflées de cicatrices, les poches bosselées des vestes, les crosses des armes. En revanche, le visage de la Syracusaine, cette inconnue pour laquelle il avait entrepris ce voyage insensé, il avait pris soin de programmer l'effacement des coordonnées du déromat de l'agence pour tenter d'égarer l'inspobot de la CILT. S'estompait dans sa mémoire comme si elle n'avait été qu'une chimère, une étoile filante dans le ciel éteint de sa vie. Exténué, abattu, il campait désormais sur la frontière ténue séparant la réalité du rêve. Il devenait le spectateur hébété, passif, de la pièce étrange, incongrue, absurde, dont il était censé tenir le rôle principal. Seule la douleur lui cisaillant le cou le ramenait de temps à autre à la perception du présent. Des bourgeois aux robes ou costumes chamarrés se pavanaient au milieu des squads en armes qui creusaient des sillons rectilignes dans la populace, sans se soucier des regards venimeux, haineux, qui fleurissaient sur leur passage. Personne ne s'intéressait à la bande du Grand Ashuit, et si quelqu'un observait Tixou, tiré à hue et à dia dans la bousculade générale, c'était uniquement pour faire une rapide estimation de sa valeur marchande. Ils débouchèrent enfin sur une place rectangulaire au sol légèrement surélevé et recouvert d'une plaque de béton noir fendillée comme une peau de reptile. Les allées creuses, rectilignes, qui convergeaient vers le centre de l'esplanade, étaient bordées de grands cônes lumineux. Elles étaient également jonchées de dalles de verre épais, d'où fusaient des éclats phosphorescents.
« Le toit du marché, pas trop tôt !»
s'écria une femme qui répondait au doux nom de la bagarre.
« J'en ai jusque là de me faire grimper sur les arpions !»« T'adores ça, te faire bousculer !»
ricana Carnégile. La bagarre haussa les épaules et entonna d'une voix enrouée.
« Youpi, une bonne marchande homme pour un bon prix. Youpi, du bon fric pour de la poudre à joie. Youpi, et de la bonne poudre pour de bonnes nuits. Youpi, et bonne nuit où je me donne à toi. »
La nervosité du manchot s'était encore accrue depuis le coup de gueule du Grand Ashuit. Son pouce jouait fébrilement avec les boutons du boîtier de commande. Les mâchoires du collier magnétique se refermaient convulsivement sur le cou de Tixou, qui avait de plus en plus de mal à respirer. Ils empruntèrent une allée et se dirigèrent vers le centre de la place. Sous les dalles de verre, l'orangien entrevit une immense et profonde salle ainsi qu'une scène ronde sur laquelle se dressaient des cages vides, de toutes dimensions, munies de barreaux ou de parois à pression d'air et balayées par les feux croisés de projecteurs auto-suspendus. Au point de convergence des allées s'ouvrait la bouche d'un escalier abrupt qui plongeait dans les entrailles obscures du cher marché. Ashuit s'y engagea sans hésitation, mais les autres ne parurent pas décidés à lui emboîter le pas. Le borgne se retourna et toisa ses compagnons d'un air mauvais.
« Eh ben, qu'est-ce que vous attendez, tas de mouteurs castrés ? C'est-y que vous auriez la trouille des fois ?»«
Parle pour eux ! On peut pas être castrés, nous autres, les femmes !»
vitupéra la bagarre.
« Où c'est qu'on va ?» demanda Carnégile.
« Chez le Frassao Métarelli, » gronda le borgne. « C'est lui qui fait le meilleur prix pour les marchands d'hommes. »«
J'ai pas confiance !» protesta courageusement Carnégile. Il paraît qu'il paye surtout à coups de brûle-entraille.
Si je comprends bien, t'es en train de discuter mes ordres.
Le Grand Ashuit brandit les deux énormes massues préhistoriques qui lui servaient de poing. Son œil s'injecta de rage et de sang, sa barbe elle-même se hérissa comme si elle était animée d'intentions meurtrières. Autour de Carnégile subitement isolé, les traits se figèrent. Hommes et femmes se reculèrent instinctivement et formèrent une arène improvisée. La justice expéditive du Grand Ashuit constituait souvent un intermède spectaculaire, distrayant. Il s'apprêtait à être les témoins de la punition du rebelle, de sa mort peut-être. La montagne de fric, donc de poudre, que représentait ce providentiel godapi tombé du ciel, chamboulait les têtes et les idées. Livide, Carnégile se rendit compte qu'il était sur le point de perdre ses dernières molaires, son dernier bras, voire même la vie. Et estima plus sage de négocier.
« Te fâche pas, Ashuit. Ce que j'en disais, moi, c'était pas histoire de t'embêter. »
Des soupirs de soulagement matiné et de déception ponctuèrent la reddition du manchot. La voix criarde de la bagarre se répercuta sur les parois de la cage d'escalier.
« Youpi, une bonne marchande homme pour un bon prix. Youpi, du bon fric pour de la poudre à joie. »
En bas des marches, un couloir les conduisit sur un palier hexagonal, faiblement éclairé par les lueurs tamisées des lampes aux murales. Il était entouré de portes blindées surmontées d'enseignes holographiques libellées en langue prouge et en afle interplanétaire. Chacune de ces portes était gardée par trois ou quatre individus aussi engageants que des scorpions tueurs du désert intérieur de points rouges. Le rayonnement des sphères atomiques de chauffage qui voltigeaient sous la voûte revigora légèrement Tixou, frigorifié. En sa qualité de chef, il revint au Grand Ashuit l'honneur d'interpeller l'un des gardes vêtus d'uniforme jaune qui se tenait sous une enseigne également jaune. Il saisit son prisonnier par le bras et le poussa devant lui. L'assurance du géant borgne s'effrita comme une motte de terre sèche. La voix tonitruante se réduisit à un filet sonore à peine audible.
C'est là le Franchao Métarelli ?
Qu'est-ce que tu lui veux, espèce de trait de cul ? Rétorqua un garde. Tu crois peut-être qu'un Franchao de la Camorre se déplace pour des pouilleux de ton genre ?
Un chouette se fendit d'une courbette disgracieuse.
J'ai une bonne petite affaire à lui proposer. De la belle marchande à me regarder.
À qui t'a volé cet esclave ?
Pas volé, capturé,
répondit le grand Achuite en se redressant et en bombant le torse.
Il est à moi et à ma bande. Il y a vent au cri cette nuit. Regardez toucher, de la belle peau, du muscle, du costaud. Sûr que les friqueux vont se l'arracher.
Bouge pas, je vais voir. Et j'espère pour tes tripes que le Françaoum est arrélié de bon poil, traîne cul. Il n'a pas l'habitude de se déranger pour un seul article.
Sa barbe, le sourire mielleux du borgne se crispa.
Quand il verra celui-là, il regrettera pas.
Le garde composa un code sur une console enchâssée dans la paroi de béton. Une petite lucarne se découpa aussitôt dans la porte métallique blindée. Le silence feutré et l'attitude hostile des gardes avaient refroidi l'enthousiasme de la bande. Bras ballants, mines anxieuses, yeux et têtes baissées, les glorieux compagnons du grand Achuite n'avaient plus qu'une envie, prendre leurs jambes à leur cou. Un visage s'immissa dans la lucarne. Teint bistre, touffe de cheveux crépus et rougeâtres, traits noyés dans la graisse, petits yeux noirs et incisifs, un prouge sans âge.
« Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il d'une voix rogue. « Des mordus de poudre qui proposent une vente au Franchao. Une marchande d'hommes,
chuchota le garde. Les yeux noirs du prouge balayèrent rapidement la plateforme, détaillèrent Tixou.
« Fais entrer, ces minables !»
Le piège se refermait sur l'orangien. À moins d'un miracle, il ne voyait pas comment se sortir indemne de ce cul de basse-fosse plongé dans la pénombre. À la taverne des trois frères de deux saisons, il avait entendu dire qu'on inoculait des rangs doux aux prisonniers de la Camorre, destinés à la vente. Un virus qui s'attaquait aux cellules du cerveau, neutralisait mémoire et volonté, et nécessitait de régulières injections de sérum. Pour se redonner un peu de courage, il s'efforça de se remémorer les paroles de Cachot Maroum.
« Tu as bu l'eau intérieure des lézards, leur force te protégera. Tu voyageras à jamais sur les dieux de l'invincibilité. »
Mais autant ces mots lui avaient paru avoir un sens dans la forêt de deux saisons, autant ici, devant cette porte et ses gardes de malheur, il sonnait creux. Ils n'étaient que de dérisoires et stupides incantations adressées à des dieux qui n'existaient pas. Il ne lui faisait pas oublier la faim, le froid, l'implacable serre de rapaces plantée dans son cou, le désespoir qui se diffusait en lui comme un lent poison. Il eut envie de vider un gobelet de mumbe, de sentir la chaleur brutale de l'alcool frelater dans sa bouche, dans son gosier, dans ses entrailles. Le prouge, petit homme grassouillet dont le ventre mou retombait sur le pagne blanc, guida Achuite et sa bande dans un interminable dédale de couloirs obscurs et incurvés, puis les introduisit dans une large pièce éclaboussée de lumière blanche, crue, aveuglante. Au fond, contre un mur haut glauque, trônait un bureau massif dont Tixou identifia instantanément les origines orangiennes. Un meuble typique de la province de Violine, caractérisé par son bois de couleur jaune, ses pieds trapus, arrondis, sculptés, et les rebords dentelés de sa table ovale. La vue de ce bureau baroque, incongru dans cette pièce nue, le projeta subitement quelques années en arrière. Le mobilier du conversoir de son oncle sur Orange était en tout point identique à celui-ci. Il offrait le même mélange de grâce et de lourdeur. D'autres gardes vêtus de combinaisons jaunes firent irruption et fouillèrent minutieusement les membres de la bande. Leurs mains eurent tendance à s'égarer plus qu'il n'était nécessaire sous les fripes des femmes, ce qui n'était pas pour déplaire à ces dernières qui se trémoussèrent et lâchèrent des petits gloussements de plaisir.
« Eh bien, Zorcas, tu sais pourtant que la réunion de la Camorre commence dans quelques minutes ?»
fit une voix coupante dans un affle parfait mais fortement imprégné d'accent orangien.
« Alors j'espère ne pas me déranger pour rien !»
L'homme de taille moyenne leur tournait le dos. Debout contre un mur haut latéral de couleur ambre, Il suivait attentivement les arabesques d'un poisson topaz pris en chasse par un banc de gymnotes à queue rouge, dont les longs corps enluminés traçaient de fugaces et incessantes figures géométriques. Il était vêtu d'un sobre ensemble ch'tui de violine, veste croisée bleue et pantalon blanc et bouffant. Son large crâne dégarni luisait sous une bulle lumière à reconnaissance cellulaire.
« Ce sont ces pouilleux qui veulent vous proposer une affaire, Franzao Mettarelli, »
déclara le Prouge.
« Voyons ça !»
Le Franzao se retourna. Ses yeux d'un bleu pâle, un bleu de ciel matinal, se posèrent sur Tixou. Son visage légèrement empâté s'ornait d'un nez aquilin et d'une bouche aux lèvres charnues, sensuelles. Aucune expression ne vint altérer ses traits lorsqu'il eut fait son examen.
« Où l'avez-vous capturé ?»«
Là où qu'on habite, Franzao, dans les immeubles abandonnés de la bordure du désert, »
bredouilla le grand Achuit obséquieux.
« D'où sort-il ? » ?»«
Je sais pas, Franzao. Elle est tombée du ciel devant les yeux de la vieille Isabusa. Il sort sûrement des transferts de cellules. »
Les questions laconiques appelaient des réponses rapides et concises.
« Il est dans un état lamentable, » dit le Franzao. « Sa peau est tout écorchée. Une marchande homme, bande de trous du cul, ça se traite avec le plus grand soin. »
Le borgne et ses compagnons étaient de moins en moins rassurés. Entre deux grimaces niaises en guise de sourire, il lâchait des petits rires jaunes et stupides. Carnegie il regrettait que la chaîne n'entourât pas le cou de son crétin chef. Il l'aurait immédiatement resserré de 5 crans, manière de lui faire rentrer sa bêtise dans la gorge. Mais Tarelli s'avança et plongea son regard glacial dans celui de Tixou. L'orangien dut plisser les yeux pour supporter la luminosité aveuglante de la bulle lumière qui précédait le Franzao à chacun de ses déplacements.
« Si eux sont incapables de me répondre, tu peux peut-être le faire à leur place. D'où sors-tu ?»
De cet homme replet et chauve à l'allure quelconque émanait une autorité tranchante, brutale, renforcée par la sobriété de ses vêtements.
« Je viens de deux saisons, »
balbutia Tixou. La pression du collier magnétique rendait sa voix geignarde, hésitante.
« Idiot, tu n'es pas Sadumba. Je me fous de ton dernier voyage. Je te demande quelles sont tes origines. »
« Je suis d'Orange. »
Un léger voile de stupeur recouvrit le visage du Franzao. Tixou eut l'impression qu'une flamme de chaleur embrasait le regard clair presque transparent.
« Orange ! De quel continent d'Orange ?»
Un intérêt contenu mais réel sous-tendait sa voix.
« D'une province de l'hémisphère sud, Violine. »«
Violine ?»
Il avait laissé échapper ce mot comme un soupir. Il s'absorba dans ses pensées pendant un moment qui parut interminable à Achuit et aux autres qui n'en menaient pas large.
« Dieu, qu'elle me paraît loin, la verte violine !» murmura le Franzao. « Comment t'appelles-tu »«
Tixou. Tixou Oti. »
Carnegie était tellement nerveux qu'il appuyait sans s'en rendre compte sur les boutons du boîtier. Les mots du prisonnier s'achevaient en râle sifflant. Toujours précédé de sa bulle lumière, Mettarelli retourna se placer devant le mur haut ambré où le poisson topaz déjouait sans se lasser les manœuvres de ses prédateurs.
« Toi, le borgne, tu es le chef de cette bande, n'est-ce pas ? »
lança-t-il du fond de la pièce.
« Oui. »
couina le grand Achuit qui se demanda où son interlocuteur voulait en venir.
« Sache, pour ta gouverne, et en vue d'autres affaires que tu aurais à me proposer, que les Orangiens ne valent rien au cher marché. » Ils ne sont même pas cotés. Dans son état, ta marchande homme ne vaut guère plus qu'un dé de poudre.
« Mais, Franzao, je suis là jeune, en pleine forme, »
argumenta Achuit dépité.
« Y a qu'à le frotter de ses huiles qui remettront sa peau comme celle d'un bébé. »«
Tais-toi, traîne-cul !»
La voix de Mettarelli était aussi affûtée qu'un scalpel.
« Tu as eu l'audace de venir chez moi, mais pas celle de refuser mes conditions. Ici, c'est moi qui décide et j'ai décidé, parce que je t'aime bien dans le fond. » de t'offrir un dé de poudre pour cet orangien. Si ce marché ne te convient pas, je te paierai à coups de brûle-entraille. Et cette fois-ci, je ne serai pas regardant sur la dépense. »
Le grand Achuit entr'ouvrit la bouche pour protester, mais le violent coup de coude dont la bagarre lui gratifia les côtes le ramena au sens des réalités. Accroché au seul bien qui lui restait, la vie, elle venait ainsi de donner le signal de la débandade.
« Prenez sa commande au manchot !»
ordonna le Franzao au garde. Carnegie n'attendit pas l'intervention des gardes pour se débarrasser du boîtier. Il le jeta loin devant lui, tourna les talons et fila sans demander son reste.
« Zortias, donne un dé de poudre à ces minables et foulez dehors, il pue !»
La bande du grand Achuite reflua en désordre vers la sortie. Et sur leur bouille dépitée, blême, se lisait à la fois le soulagement de sortir vivant de l'antre d'un Franchao de la Camorre et la promesse de terribles empoignades. Un dé de poudre, c'était juste assez pour contenter 5 à 6 membres de la bande, et il leur faudrait se battre comme des bêtes féroces pour faire partie des privilégiés, pour récupérer quelques miettes de la précieuse drogue. Les femmes rivaliseraient de charme et se prêteraient à toutes les bassesses pour être élues par les vainqueurs. Le grand Achuite fulminait. Offensé publiquement dans sa dignité de chef, il se devait de rétablir au plus vite son autorité battue en brèche. Le bras restant de cette grande gueule de Carnegie brandi en trophée suffirait peut-être à faire réfléchir les autres. Sinon, il lui arracherait la tête et la clouerait sur le portail d'entrée de leur repère. Rien de tel qu'une bonne tête clouée sur du bon bois pour étouffer les ardeurs contestataires.
« Ils ont eu de la chance que je sois de bonne humeur, » fit le Franchao après leur départ. « En vertu d'une décision de la Camorre, j'aurais dû les supprimer. Il est de l'intérêt public d'éliminer rapidement ces parasites. Si on les laisse devenir trop nombreux, ils vont finir par s'organiser et nous créer des ennuis. La puanteur est infernale. Branchez les ioniseurs à parfum et retirez-lui cette laisse magnétique. »
Le collier se desserra cran par cran et retomba aux pieds de Tixou. Il put enfin respirer librement à profondes et longues inspirations. Les mâchoires d'acier lui avaient imprimé une marque bleue à la base du cou. Son cerveau, brutalement suroxygéné, flotta dans une douce euphorie qui lui fit oublier la faim, le froid, la douleur et le désespoir. Au terme d'une descente tracée à vigoureux coups de nageoire, le poisson topaz avait succombé à l'un de ses prédateurs qui se jetait maintenant sur lui pour la curer. Sa petite queue translucide fouettait inutilement l'eau ambrée du mur. Les dents pointues des étincelants gymnotes à queue rouge commençaient à le dépecer.
« Il a tenu 3 jours, commenta le Franchao. Compte tenu de l'espace restreint et du fait qu'il était seul contre 6, c'est un résultat plus qu'honorable. »
Zortias réapparut quelques minutes plus tard, arborant un large sourire sur sa face bouffie.
« Pas de problème, Zortias. Non, Franchao, il se battait avant d'être arrivé sur le toit du Chermaché. Tant mieux, ils réussiront peut-être à s'entretuer, ce qui nous éviterait le travail. » À présent, je dois partir pour la réunion de la Camorre. Toi, tu t'occupes de lui. Emmène-le à Sabilo, fais-lui prendre un bain. Demande aux filles de l'anneau de soigner ses égratignures, trouve-lui des vêtements et attends-moi.
Dois-je lui remettre le laisse magnétique, Franchao?
On ne met pas de chaîne aux hôtes, pas même chez les Prouges.
Les yeux noirs de Zortias s'arrondirent de stupeur. Il secoua à 3 reprises sa crinière rouge et crépue comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu.
« Cette marchand d'homme est votre hôte, Franchao. »
Son accent guttural rocailleux offrait un saisissant contraste avec la rondeur de ses formes et la mollesse de ses traits. Mais Tarelli ne répondit pas. Il détourna simplement son regard de la scène navrante qui se déroulait à l'intérieur du mur au trouble, où les restes du poisson topaz s'éparpillaient au ralenti, et se rendit près du bureau. Il glissa les doigts dans un détecteur d'empreintes posé sur la table marquetée. Le mur haut pivota sur ses gonds dans un chuintement feutré et découvrit une plateforme gravitationnelle immobilisée à l'entrée d'un tube de descente. Le Franchao et ses gardes prirent pied sur la plateforme. Avant que le mur ne se fût entièrement refermé sur eux, Metarelli déclara
« Tu répondras de sa vie, Zortias !»
Son ton déterminé ne laissait aucune place à l'échec. 3 heures plus tard, Metarelli, toujours escorté de ses gardes, surgit comme par enchantement dans l'immense salon de sa demeure, Sarbilo. Il s'était changé, et il portait à présent une cape et un costume en tissu chiné de jaunille, province d'Orange renommée pour la qualité de ses étoffes. Il semblait préoccupé, soucieux. De profondes rides barraient son large front, et ses yeux se rétractaient, s'enfonçaient sous ses arcades sourcilières. Il tint un conciliabule avec Zortias venu aux nouvelles. Du confortable canapé sur lequel il était assis, Tixou vit le Prouge rouler des yeux furibonds et s'agiter comme un forcené. Après le départ du Franchao pour la réunion de la Camorre, Xortias avait entraîné Tixou dans un labyrinthe d'escaliers de pierre, de passerelles métalliques suspendues et de galeries obscures, étranglées, irrespirables. Exténué, l'orangien avait dû faire appel à toute sa volonté pour ne pas perdre de vue le pagne blanc qui avançait à toute allure devant lui. Ils avaient atteint un carrefour où débouchait une dizaine d'autres galeries et au centre duquel se trouvait une cabine montée sur un rail d'eau. Nerveux, Xortias avait aussitôt programmé le parcours avec la pointe d'un ongle sur une console de la taille d'un pouce. Il s'était engouffré dans la cabine qui s'était ébranlée, avait pris de la vitesse et avait foncé à une allure vertigineuse dans les entrailles du sol. Ils avaient parcouru une distance que Tixou aurait été bien en peine d'évaluer. Les tunnels, éclairés de lampes ou nichrons enchâssés dans les voûtes, se ressemblaient tous. À chaque aiguillage, à chaque changement de direction, des gerbes d'eau, l'eau du rail, avaient cinglé les vitres de la cabine. Durant tout le trajet, Xortias s'était montré fébrile, inquiet, et sa main s'était tenue en permanence près du brûlant trail de poche passé dans la ceinture de son pagne. Le Franzao lui avait confié la responsabilité de la vie du captif. Il exécutait l'ordre avec la férocité d'un chien lion dressé, prêt à tuer pour défendre les intérêts de son maître. La cabine avait enfin ralenti, puis avait fini par s'immobiliser. Les grondements assourdissants et le clapetis du rail haut avaient cessé et restitué le labyrinthe au silence des profondeurs. Les yeux de Tixou s'étaient rapidement accoutumés au clair-obscur. Il se trouvait dans un sous-sol hérissé de gros piliers cylindriques en acier. Le Prouge avait frappé dans ses mains en une succession de coups longs et de coups brefs. L'un des piliers, un tube de montée, s'était ouvert sur une plateforme ascensionnelle. « Monte, vite !» avait aboyé Xortias, main posée sur la crosse de son brûlant trail. Il avait jeté des regards furtifs, inquiets de tous côtés, comme s'il s'était attendu à voir surgir des ennemis de partout à la fois. Tixou s'était demandé pourquoi son ange gardien se montrait aussi agité. Épuisé par son transfert, par le traitement que la bande du Grand H8 lui avait réservé, par cette marche somnambulique dans les galeries souterraines du cher marché, il n'avait pas un seul instant envisagé de lui fausser compagnie. Mais Xortias avait peut-être ses raisons. Point Rouge était le genre d'endroit où la méfiance était une vertu. La plateforme les avait déposés au rez-de-chaussée de Sarbilo, la maison du Franzao, une bâtisse de pur style orangien. Les murs hauts convexes aux tons miel et ambre, dans lesquels s'ébattaient des poissons de toute taille et de toute couleur, formaient de somptueuses mosaïques mouvantes et scintillantes. D'épais tapis moirés de jaunille jonchaient le carrelage de marbre jaspé. Les molles ondulations des tentures tirées devant les baies arrondies dessinaient de fugaces enluminures. Au centre du grand salon, à l'intérieur d'un grand dôme géodésique, des anneaux entrelacés et phosphorescents naissaient et mouraient en un cycle sans cesse renouvelé. Tixou avait déjà vu des dômes et des anneaux de ce genre sur les places des grandes villes d'Orange. Ils représentaient le cycle de la vie humaine et rappelaient aux passants le caractère éphémère de toute chose ici-bas. Dans les couloirs se pressait une foule de serviteurs et d'esclaves, ombres silencieuses et furtives de l'autre côté des murs hauts. Xortias avait murmuré quelques mots devant l'holophone à écran cristallin. Deux femmes étaient descendues par l'escalier monumental reliant le rez-de-chaussée à la mezzanine centrale. Des sœurs originaires du troisième anneau de Sbarao, aux longues chevelures bleu-noir, aux immenses yeux couleur de terre brûlée, aux pommettes saillantes, au nez fin et droit, à la bouche lipue entr'ouverte sur des dents teintées de nacrelles roses. Elles étaient vêtues de simples carrés de tissu écru noués sur les hanches qui ne cachaient pas grand-chose de leur corps svelte et brun.
« Le Franzao veut que vous vous occupiez de lui. Bain et massage à l'huile de kyprite pour faire disparaître les plaies », avait expliqué Xortias, visiblement soulagé d'être arrivé sans encombre à Sarbilo. « Je viendrai le reprendre dans 2 heures. »
Les deux femmes avaient conduit Tixou dans une salle claire au second étage de la maison, dont le plafond transparent se couvrait de poussière d'étoiles. Elle l'avait baigné d'autorité dans une eau bouillonnante et brûlante et avait vigoureusement récuré sa peau avec de rugueuses éponges végétales. Elle n'avait pas cessé de rire et d'émettre leur babil musical. Il avait ainsi appris qu'elle avait été capturée lors d'une rafle effectuée dans leur village par les trafiquants sbaraïques, puis vendue comme esclave à un richissime joaillier de Point Rouge, un vieux vicieux qui les obligeait à faire des choses dégoûtantes. Mais ce dernier avait refusé de payer la dîme annuelle fixée par la Camorre aux commerçants, et il avait reçu la visite des sbires des Franchaus. Il avait dû fuir précipitamment et abandonner toutes ses richesses, esclaves compris. Un fabuleux butin que la Camorre s'était emparée de récupérer et de partager. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée au service de Bilo Mettarelli. Elle ne s'en plaignait pas car, sous des dehors sévères, le Franzao savait faire preuve de gentillesse à leur égard. Elle s'arrangeait simplement pour ne pas paraître devant lui lorsqu'il était de mauvaise humeur. Entre deux fous rires, elles avaient ajouté qu'elle réussissait aisément à satisfaire tous ses vices, ce qui chez lui n'était pas trop compliqué. Elles avaient également évoqué avec nostalgie le troisième anneau, leur monde d'origine, et les larmes qui avaient coulé à ce moment-là n'étaient pas des larmes de rire. Elles avaient ensuite enduit Tixou d'une huile parfumée et l'avaient longuement massée. Leurs mains, aussi légères que des plumes d'oiseaux, avaient fini par l'endormir. Elles lui avaient chatouillé le lobe des oreilles pour le réveiller, et sa bouille ahurie avait déclenché une nouvelle salve de rires malicieux. Il s'était alors rendu compte que sa peau avait recouvré sa netteté, sa douceur. Les plaies avaient disparu, y compris la marque bleue de son cou dont il ne restait qu'une légère ombre rosâtre. Toute trace de fatigue s'était également évanouie, comme si elle avait été aspirée par les paumes de ses femmes. Elle l'avait remis à neuf. Il avait ressenti un merveilleux sentiment de bien-être, qui lui avait rappelé l'effet de l'onguen de lézard avec lequel Malinoé, la femme de Cacho Marum, avait soigné son épaule dans la cabane de la forêt profonde. Elle l'avait aidé à passer un pantalon resserré aux chevilles et une tunique de coton peigné blanc. Puis Ortias était venu le chercher pour le mener jusqu'au grand salon, où il lui avait intimé l'ordre de s'asseoir et d'attendre. Il avait peu à peu perdu toute notion du temps. Il avait flotté entre rêve et réalité, perdant le fil d'un écheveau où s'entremêlaient étroitement impression et illusion. Il en était arrivé à douter de l'existence de la Syracusaine. Il croyait se souvenir, pourtant, qu'elle avait été le moteur de sa décision, que c'était pour elle qu'il s'était lancé dans cette entreprise insensée. Il ne parvenait plus à reconstituer ses traits, mais il n'avait pas oublié les autres. Le mystérieux individu dissimulé dans son ample capuchon vert et ses hommes de main au masque blanc. Il n'avait pas oublié Cacho Marum qui était venu le repêcher dans le fleuve Agrippam. Les grondements indignés de son ventre, qui réclamait son dû avec insistance, l'avaient ramené progressivement sur le rivage du réel. Il l'avait empêché de douter de sa propre raison, de sa propre existence. Les mains de Zortias, toujours en discussion avec le Franchao, retombèrent le long de ses hanches. Ses yeux noirs étincelaient de colère. La voix tranchante de Mettarelli arracha brutalement Tixou à ses pensées.
« Te voilà plus plaisantable !»
Avant que Tixou eût le temps d'ouvrir la bouche, le Franzao se laissa choir de tout son poids sur le canapé. Les soucis semblaient avoir déserté son visage, même si quelques tics et rides tenaces continuaient de trahir une certaine inquiétude, même si ses épaules s'affaissaient un peu plus que d'habitude.
« Bien entendu, tu es en droit de te poser des questions, »
reprit Mettarelli d'un ton qui se voulait enjoué.
« Je suis persuadé que tu aimerais savoir ce que tu fais chez moi alors que tu aurais dû être l'une des vedettes de la vente de cette nuit au cher marché. »
Zortias s'assit en tailleur sur un tapis de jaunille et écouta de toutes ses oreilles. Il voulait comprendre, lui aussi, les raisons de cette exceptionnelle faveur. La crinière fauve qui encadrait son visage mafflu accentuait sa ressemblance avec un chien lion docile.
« Comme tu l'as probablement remarqué, « tout ici vient d'orange, » fit le Franzao. « Tapis, murs, meubles, absolument tout, y compris les pierres, les tuiles blanches et la charpente. La raison en est simple, je suis moi-même orangien. Et qui plus est, je suis originaire de la province de Violine. La belle et verte Violine. Mon vrai nom est Bilo Maitrelli, mais comme il n'arrive pas à prononcer correctement ici, ils l'ont transformé en Mettarelli. Ça fait une éternité que je n'ai pas revu Violine, et je ne crois pas que je la reverrai un jour. Mais cela ne m'empêche pas de me tenir au courant de ce qui s'y passe. Ainsi, cette semaine, troisième semaine du mois de Néphren orangien, Orange fête ses 20 siècles d'indépendance. 20 siècles que la colonie orangienne est devenue un état membre à part entière de la Confédération de Naflin. Est-ce que tu le savais?
Ce grand escogriffe de H8 avait voulu vendre Tixou à un Franzao d'origine orangienne, un vieux linois qui plus est. Un étonnant concours de circonstances. Peut-être était-ce là la force du dieu lézard.
« Ben, non, »
répondit Tixou qui n'avait jamais eu de goût pour l'histoire.
« Bien que j'aie été banni à jamais de notre monde, j'ai envie de participer à ma manière aux réjouissances. C'est ce qu'on doit appeler la nostalgie. J'avais pour orange les yeux d'un amant passionné, excessif. Cette planète était mienne et je ne voulais pas la quitter. Mais le destin en a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, inutile de revenir en arrière. Il m'est agréable de partager cette fête d'indépendance avec un complanétaire. Voici mon cher
Tixou Oti.
Mon cher Tixou, ce qui te vaut ton actuelle liberté. Si cette reine cul s'était adressée à quelqu'un d'autre que moi, Franzao ou négociant, tu serais à cette heure-ci en train de croupir dans une cage de la salle des ventes. Avec en prime une saloperie qu'on t'aurait balancée dans le sang et qui te rongerait l'intérieur du crâne. J'ai commandé un repas typiquement violinois, afin de célébrer dignement ces 20 siècles d'indépendance. Ensuite, à l'entrée de Salome dans le ciel, nous irons au cher marché. J'ai quelques loups à vendre. Tu verras, mon jeune ami, le spectacle est plus attrayant de l'extérieur que de l'intérieur des cages.
Comme la vue du bureau du Franzao dans son repère du cher marché, le repas, succulent, ramena Tixou des années en arrière. Chaque bouchée ravivait des souvenirs qu'il croyait à jamais balayés dans les vents de l'oubli. L'image floue de sa mère préparant les repas de fête lors de sa petite enfance vint se superposer aux saveurs emplissant son palais. Bilo Maitreli se montra disserte, chaleureux comme un père vis-à-vis de son fils, heureux de trouver en Tixou un compagnon à qui se confier. Il ouvrit des brèches dans la muraille de méfiance, de solitude et de silence que ces interminables années d'exil avaient érigées autour de lui. Les deux hommes se réfugièrent l'espace du repas dans le chaud cocon d'orange. La nostalgie et les vins fruités de violine coulèrent à flot. Ils abandonnèrent Zortias, qui avait été exceptionnellement admis à la table du maître de Sarbilo, à sa bouderie maussade. Jamais de sa vie, le Prouge n'avait autant entendu parler le Franzao qui raconta avec force détail le crime passionnel qui lui avait valu le classement à l'index des Rascatas et son bannissement d'Orange, son arrivée sur Point Rougeville, sa lente ascension au sein de la Camorre. Il avait débuté comme homme de main chargé des basses besognes, en particulier de la liquidation des récalcitrants et des traîtres. Puis il était devenu l'homme de confiance et le garde du corps de Sif Kirwik, un vieux Franzao très influent, originaire de Selpdik. À sa mort, Sif Kirwik en avait fait son légataire officiel, ce qui équivalait à une reconnaissance implicite au titre de Franzao. Mais cette décision n'avait pas été du goût de tout le monde, et Bilo Maitreli avait été mis dans l'obligation d'éliminer un à un tous les prétendants à la succession. Pour la plupart d'anciens lieutenants de Sif Kirwik, des durs à cuire dont il était venu à bout par la ruse et la traîtrise.
C'est ce qu'on appelle ici une guerre de succession,
ajouta-t-il en libérant un rire sardonique qui fit frémir son interlocuteur.
Et toi, qu'est-ce que tu fabriques sur Point Rouge?
Je voyage, répondit prudemment Tixou.
Ah, tu voyages? Sans argent et à poil?
Les lèvres charnues du Franzao s'étirèrent en un sourire dubitatif.
« C'est-à-dire que je me suis fait avoir par la CILT, vous savez, cette compagnie de transfert de cellules, » justifia Tixou à qui le scepticisme de son hôte n'avait pas échappé. « Elle n'avait que de vieux déromates, de ceux qui ne transfèrent que les cellules humaines, et l'employé ne m'avait pas prévenu, si bien que j'ai tout perdu au cours du transfert, bagages, vêtements, argent. » Quand je me suis rematérialisé sur Point Rouge, je n'ai rien pu faire pour échapper à cette bande. Je souffre du mal des voyages et il me faut une bonne heure pour retrouver ma motricité. Ils ne m'en ont pas laissé le temps.
Admettons, c'est tout de même curieux que l'employé ait programmé ta rematérialisation dans les immeubles en ruine du bord du désert. Ce n'est pas à proprement parler un endroit idéal pour jouer les touristes. Et maintenant, que comptes-tu faire?
Je ne sais pas. Essayer de trouver un peu d'argent pour repartir.
Un peu? Il faut beaucoup d'argent pour voyager.
répliqua Maitreli.
Les voyages par des remates des compagnies coûtent des petites fortunes. Il te faudrait 10 ans pour réunir la somme nécessaire. J'aurais peut-être une meilleure solution à ton problème. Tu n'es pas classé à l'index des Raskatas, au moins.
Non, pas pour le moment,
dit Tixou, qui ne savait pas où la CILT en était de ses démarches et si elle avait déjà demandé son classement à l'index pour trafic de déromates.
Tant mieux. J'aurais pu, dans le cas contraire, te proposer du travail, mais de toute manière, le moment serait mal choisi. Il est absolument impossible d'affirmer aujourd'hui que la Camorre sera une réalité dans quelques semaines, ou même dans quelques jours.
Zorkias releva la tête, lèvres et menton dégoulinant de sauce. Il n'avait jamais réussi à manier correctement les couverts mécaniques. Il suspendit sa mastication et, bouche bée, pétrifié sur sa chaise, ne songea pas à s'essuyer avec la serviette que ses doigts crispés avaient machinalement saisie.
« Pourquoi dites-vous cela ?» demanda Tixou. « J'ai toujours entendu dire que, sur Point Rouge, personne ne pouvait rien contre les Franzaos de la Camorre. »
Maitreli commanda l'arrêt du couvert mécanique, qui interrompit son mouvement à 3 centimètres de sa bouche et croisa les mains sous son menton. Autour de la table ovale, les 4 servantes, vêtues de robes diaphanes, originaires d'Issigore, comme l'indiquait leur peau translucide et leur chevelure cendrée, allaient et venaient chargés de plateaux d'optallium blanc, en un balai parfaitement réglé. Le Franzao les avait affranchies toutes les 4, mais elles avaient exprimé le souhait de rester à son service.
« Les temps sont en train de changer, » murmura Maitreli d'un air sombre. « C'était l'objet de la réunion de ce soir. »
Son visage s'était de nouveau rembruni, creusé. Les soucis qu'il était parvenu à tenir éloignés tout le temps qui avait duré l'évocation de ses souvenirs de jeunesse revenaient l'assaillir.
La Camorre se trouve confrontée à une menace dont elle ignore la puissance, reprit-il d'une voix lasse. Il y a 1 semaine, nous avons reçu une ambassade secrète venue de Syracusa, composée d'un skite d'Hipponeros, d'un cardinal creusien et d'un parent proche de la famille gouvernante, le clan Hang. Ces prétentieux faiseurs de mode nous ont servi un insupportable baratin combinatoire.
À l'évidence, Maitreli, grisé par le vin, éprouvait un besoin pressant de parler, de vider son sac.
Ils exigent un contrôle permanent sur toutes nos activités. Jeux, prostitution, marché aux esclaves, trafic d'organes, d'armes, de poudre, d'alcool. Ils veulent que nous leur remettions nos déromates privés et que, pour nos déplacements, nous leur fassions la demande d'un passeport cellulaire temporaire. Ils veulent également que nous aidions leurs salopards de missionnaires à convertir les proches de Matana et les tribus du désert intérieur. Et enfin, ils nous sommes d'introduire un skite lecteur dans chacune des armées françaises. Rien que ça.
Qu'ils viennent, nous les égorgerons comme des mouteurs,
gronda Zorkias. La sauce qui dégouttait de ses lèvres était comme du sang barbouillant le mufle d'un fauve. Le Franzao fronça les sourcils.
« Passez vite, Zorkias. Si ces précieux ont eu l'audace de venir jusqu'ici pour nous provoquer, c'est qu'ils doivent disposer d'appuis importants, d'alliés redoutables. Soit la Camorre accepte leurs exigences et elle se fait bouffer, soit elle les refuse et c'est l'affrontement, la guerre. Et une guerre dont nous ne sommes pas sûrs de sortir vainqueurs est une guerre qu'il vaut mieux éviter. » Je crains particulièrement l'église creusienne et ses légions de fanatiques. Où veut-il en venir? Quelles sont les raisons qui les poussent à venir fouiner dans nos affaires? Pour moi, ça reste un mystère. Et si nous n'élucidons pas ce mystère dans les jours qui viennent?
Le cœur de Tixou battait la chamade. Son pouls était progressivement accéléré puis emballé au fur et à mesure du discours de Maitreli. Ses propos avaient agi comme un électrochoc et l'avaient brutalement replongé dans le cours de sa propre vie. Un feu dévorant lui embrasa les entrailles et balaya ses doutes, ses hésitations, son indécision. Les vapeurs sournoises des vins fruités orangiens se dissipèrent tout à coup. Il recouvra toute sa lucidité, toute son acuité mentale. Son complanétaire l'avait involontairement reconnecté à la Syracusaine, au tueur qui le traquait, au complot qui se tramait contre la Confédération. Il comprit que les jours des Franzaos de la Camorre étaient comptés, qu'ils n'étaient plus désormais que des morts en sursis.
Il n'y a ni à accepter ni à refuser, dit-il presque malgré lui. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de fuir au plus vite pendant qu'il en est encore temps.
Le poing de Billot Maitrelli s'abattit sur la table. Un verre de cristal se renversa et se brisa sur le bord d'une assiette. Des étincelles de colère dansèrent dans ses yeux clairs.
« Qu'est-ce que tu racontes, fille ? Devant cette caricature, devant ces efféminés emmaillotés, qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu sais de ces choses-là, toi ?»«
Je vous ai menti tout à l'heure, » répondit calmement Tixou. « J'étais employé de la CILT sur deux saisons, et ces gens ont voulu me tuer parce que j'ai transféré gratuitement une personne qui en savait un peu trop sur leur projet. »
Une expression de stupeur glissa comme une ombre sur la physionomie du Fransao.
« Contre eux ? Enfin, je suppose que nous parlons des mêmes. Vos escortes armées ne pourront pas grand-chose, » insista Tixou. « Ils lisent dans les pensées. Ils devineront vos intentions, vos projets, vos manœuvres encore plus facilement que vous avez deviné mes bobards tout à l'heure. Sur deux saisons, ils n'ont eu qu'à entrer dans l'intérieur de ma tête pour prendre tous les renseignements dont ils avaient besoin. J'ai même eu l'impression qu'ils n'avaient qu'à émettre une pensée pour me faire exploser le cerveau. C'était comme... comment dire ? Une telle sensation d'impuissance, de vulnérabilité. Si je suis actuellement sur Point Rouge, c'est pour essayer de donner un coup de main à la fille qu'ils poursuivent, parce que je crois qu'il n'y a qu'elle qui puisse encore faire quelque chose.
Pourquoi ne t'ont-ils pas tué ?
Il n'y avait aucune trace d'ironie dans la voix de Maitrelli. Ils ont essayé, mais la vie voulait encore un peu de moi.
Un silence pesant retomba sur le salon. Le Fransao ne songea pas à mettre en doute les paroles de Tixou. Il s'y connaissait suffisamment en homme pour sentir à quel point ils étaient sincères et à quel moment ils cessaient de l'être. Plateau en main, les servantes issigoriennes s'étaient figées de chaque côté de la porte coulissante donnant sur la cuisine. Elles ignoraient ce que signifiait ce mutisme inattendu, cette ambiance tendue, et n'osaient plus s'approcher de la table.
« Mon jeune ami !» Il faudra que nous ayons une conversation plus approfondie à ce sujet,
reprit le Fransao en détachant bien ses mots.
Salom entre dans le ciel et nous devons nous rendre au cher marché. Et peut-être la dernière fois, qui sait. Je ne veux pas rater la vente vedette de cette nuit. Une fille très belle, paraît-il. Une précieuse en chair et en os. Une Syracusaine.
Tixou tressaillit. Son visage devint blême. Billot Maitrelli, qui avait retrouvé la maîtrise totale de ses émotions, l'épiait du coin de l'œil. Il ne fut pas surpris de la réaction de son complanétaire.
« Elle a été capturée au deuxième crépuscule dans Matana, par une bande de jeunes brouges travaillant pour le compte du gros Galactus, un immonde tas de graisse qui est aussi négociant qui, bien entendu, s'est empressé de la mettre en vente. » Je me demande ce que cette Syracusaine pouvait bien foutre dans ce coupe-gorge qu'est Matana. Le record des enchères va sûrement être pulvérisé cette nuit.
Il s'essuya les lèvres, repoussa sa chaise et se leva. Il avait immédiatement fait le rapprochement entre le marchand d'hommes du gros Galactus et la passagère clandestine de Tixou. Il décida de ne rien laisser paraître. Il avait toujours à l'esprit ce conseil de Sif Kerouik, son mentor. Ne jamais dévoiler sa résolution, afin de garder une complète liberté d'action.
Pars devant, Sortias, et fais escorter Mélo jusqu'au cher marché.
Le prouge disparut derrière un mur haut sur lequel venaient échouer les rayons crayeux de Salom dans un poudroiement de lumière mourante. Dès qu'il l'avait aperçu, nu, étranglé, ensanglanté, malheureux, dans son repaire de la Camorre, Billot Maitrelli avait ressenti une sympathie instantanée pour Tixou, et ce, avant même de savoir qu'il était orangien. À présent, il comprenait pourquoi. Son jeune hôte était poussé par la même motivation que celle qui l'avait entraîné à commettre une folie, un meurtre, 42 années standard plus tôt dans la province de Violine-la-Verte. Et cette motivation, c'était l'amour.